Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Un mandat d'arrêt européen lancé contre deux ressortissants russes suspectés d'avoir empoisonné l'ancien espion Sergueï Skripal et sa fille pour Theresa May. C'est bien le renseignement militaire russe qui a orchestré cette attaque au Novichok. Des responsables de Twitter et Facebook devant le Congrès américain, une commission sénatoriale les interroge sur les ingérences étrangères sur les réseaux sociaux. Un an après le passage de l'ouragan Irma, la reconstruction est lente à Saint-Martin. L'île manque de main-d'œuvre et de matériaux et les habitants sont encore traumatisés par ce qu'ils ont vécu. L'exécutif tente de reprendre la main au lendemain d'un remaniement modeste. Édouard Philippe annonce la présentation des plans pauvreté et hôpital mi-septembre et le maintien de la réforme institutionnelle au plus tard cet hiver. Theresa May accuse pour la première ministre britannique plus de doute possible. C'est bien le renseignement militaire russe qui est à l'origine de l'attaque au Novichok menée en Angleterre contre l'ancien espion Sergueï Skripal et contre sa fille Yulia. Les enquêteurs pensent avoir identifié les auteurs de cette tentative d'empoisonnement et les autorités viennent de lancer des mandats d'arrêt européens contre deux ressortissants russes. Les précisions d'Antoine Gignot à Londres.
Ils se font appeler Alexander Petrov et Ruslan Boshirov. Ce sont sans doute des pseudonymes, expliquent les enquêteurs, mais il y a suffisamment de preuves pour inculper les deux hommes, car leurs visages sont connus, bruns, de corpulence moyenne. Ils portent tous les deux une petite barbe. C'est en recoupant les images des caméras de surveillance avec les données fournies par les voyageurs aux frontières du Royaume-Uni que Scotland Yard a réussi à les identifier. Ils sont arrivés le 2 mars à l'aéroport de Gatwick, en provenance de Moscou. Ils se sont rendus directement à Londres avant de faire deux aller-retour à Salisbury. Premier voyage de reconnaissance le 3 mars et deuxième passage le lendemain. Les images vidéo les montrent à proximité de la maison d'Alexander Skripal. Ils ont sans doute contaminé la porte d'entrée avec du Novichok, explique le chef de l'antiterrorisme. Les deux hommes qui sont repartis dans la foulée à Moscou sont donc recherchés pour tentative d'assassinat, blessure intentionnelle, complot et violation de la loi sur les armes chimiques. Un mandat d'arrêt européen a été lancé.
Et ce soir, le Royaume-Uni réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour revenir sur les derniers développements de cette affaire. Après Mark Zuckerberg, au mois d'avril, c'est le patron de Twitter, Jack Dorsey, qui a auditionné aujourd'hui par le Congrès américain. La commission du renseignement du Sénat l'entend, lui ainsi que la numéro 2 de Facebook, sur les tentatives d'ingérence russe lors de la présidentielle de 2016, ainsi que sur la responsabilité politique de ces réseaux. Grégory Phillips, vous suivez l'audition de Jack Dorsey au Capitole.
Le discret Jack Dorsey prête serment, puis il attrape son téléphone portable pour lire ses notes. « Je suis un peu timide, dit-il, pas l'habitude de prendre la parole en public. » Le créateur de Twitter est assis avec à ses côtés la numéro 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, face à une dizaine de sénateurs. Dorsey, d'abord, dit que Twitter n'a pas d'idéologie politique en réponse aux attaques du camp républicain qui accuse les réseaux sociaux d'être partisans. Puis, comme Zuckerberg l'avait fait en avril, le patron de Twitter fait son mea culpa et est obligé de reconnaître que le réseau aux 336 millions d'utilisateurs est faillible.
Les abus, le harcèlement, des armées entières de trolls, la propagande diffusée par des robots ou des humains, les campagnes de désinformation. On n'était pas préparé et pas équipé face à ce problème immense. On ne s'attendait à aucune de ces difficultés quand nous avons créé Twitter il y a 12 ans. Nous reconnaissons les conséquences négatives que tout ça peut avoir dans le monde réel et nous assumons notre responsabilité. C'est à nous de réparer ça. On ne peut pas y arriver seul. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. And why
I'm here. Jack Dorsey explique enfin que chaque semaine, son réseau identifie entre 8 et 10 millions de comptes suspects et qu'il les combat ou les ferme. Twitter, comme Facebook d'ailleurs, a récemment mis au jour de nouveaux comptes russes et iraniens qui tentaient d'influencer la politique américaine.
Grégory Phillips à Washington. Sans surprise, le président américain est furieux de la sortie du livre explosif de Bob Woodward. Un livre à paraître le 11 septembre aux États-Unis dans lequel le journaliste d'investigation dresse un portrait accablant de Donald Trump. Dans les extraits publiés aujourd'hui, le locataire de la Maison Blanche est présenté comme un homme inculte, colérique, paranoïaque que ses collaborateurs essayent de contenir tant bien que mal. Comme à son habitude, Donald Trump a réagi sur Twitter, je le cite, « J'ignore pourquoi les politiciens de Washington ne changent pas les lois sur la diffamation ». La vie politique aux Philippines est traditionnellement émaillée de violences, parfois même de meurtres, mais le climat actuel est inédit. Le président Rodrigo Duterte a ordonné hier l'arrestation d'un opposant et aujourd'hui, un maire philippin a été abattu dans son bureau. Son nom figurait sur une liste d'élus accusés par le chef de l'État d'être mêlé à des trafics de drogue, Eric Biegala.
Oui, alors certes, Mariano Blanco, le maire de Ronda dans le sud de l'archipel, n'était probablement pas totalement étranger au trafic de stupéfiants. Ses pouvoirs de police lui avaient d'ailleurs été enlevés l'année dernière, soupçonné qu'il était d'entretenir quelques relations douteuses avec les trafiquants. Reste que son meurtre, tôt ce matin, relève bien de l'assassinat prémédité. Quatre hommes armés arrivés dans une voiture s'introduisent dans le bureau de l'édile en pleine nuit et l'abattent alors qu'il y passait la nuit. Guerre de la drogue ou élimination plus politique, c'est peut-être un petit peu des deux. C'est le sixième élu local ainsi assassiné par balle depuis le printemps dernier. En juillet, le maire d'un faubourg de Manille avait même été abattu en plein discours public par un tir de fusil à lunettes. Des assassinats qui rappellent bien sûr le modus operandi de la guerre à la drogue, initié par le président Rodrigo Duterte depuis deux ans et dont le bilan oscillerait entre 4500 et 10 000 victimes, essentiellement des consommateurs de stupéfiants tués par balle, probablement par la police dans les rues de Manille et les autres grandes villes des Philippines. Quant à ceux qui dénoncent ces procédés pour le moins sommaires, Duterte ordonne régulièrement leur arrestation. Des journalistes, des travailleurs humanitaires et même des religieux ont d'ores et déjà fait les frais de ces oukases présidentielles. Hier, Rodrigo Duterte a ordonné l'arrestation du sénateur Antonio Trillanes, l'un de ses principaux opposants politiques, retranché dans le bâtiment du Sénat où la police n'est pas encore intervenue et où il a passé la nuit. Trillanes refuse pour le moment de se rendre, arguant que l'ordre présidentiel d'arrestation à son endroit n'avait absolument rien de légal. Il en appelle à la Cour suprême du pays pour dire le droit en la matière. S'il devait être arrêté, Trillanes serait le second sénateur d'opposition à se retrouver ainsi derrière les barreaux. Le premier, la sénatrice Leila Da Lima, avait présidé la commission d'enquête sur les meurtres extrajudiciaires de la police de Duterte, quand celui-ci n'était encore que maire de la petite ville de Davao.
Eric Biegala, un double attentat a frappé aujourd'hui la capitale afghane. Un attentat suicide a fait au moins 4 morts dans une salle de sport dans un quartier chiite de Kaboul. Mais plus tard, alors qu'il y avait des forces de sécurité, de la foule et des journalistes, une seconde explosion a retenti, faisant au moins 10 nouvelles victimes. Il y a également 25 blessés. Après un été compliqué par l'affaire Benalla et la démission de deux de ses ministres, Emmanuel Macron tente de repartir d'un bon pied. Il appelle les membres de son gouvernement à tenir face aux nombreux défis qui les attendent. L'Élysée a laissé entrer quelques caméras au début du Conseil des ministres ce matin pour immortaliser ce nouveau départ, ainsi que la présence à la table des nouveaux arrivants François de Rugy et Roxana Maracineanu. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Rien n'a donc été laissé au hasard à l'occasion de cette séquence de reprise en main. Nouvelle illustration en début d'après-midi, juste après le séminaire gouvernemental, quand le Premier ministre Édouard Philippe a martelé le programme des mois à venir.
Maintenir le cap et l'intensité des réformes, notre souci c'est l'efficacité, la réalité. D'emblée, Édouard Philippe se campe dans le vocabulaire volontariste de la Macronie et il annonce les grands chantiers à venir, des dates, le plan de lutte contre la pauvreté jeudi prochain, la réforme de l'hôpital le 18 septembre. Et Édouard Philippe prévient, c'est le chef de l'État lui-même qui s'impliquera personnellement pour détailler ces annonces. Le Premier ministre qui en profite aussi pour faire le point sur les consultations qu'il organise avec les partenaires sociaux. Elles durent depuis la fin du mois d'août. La dernière des 13 organisations a été reçue cet après-midi. Réunion pour rénover le dialogue social et faire passer en douceur la poursuite des réformes sociales, les retraites, l'assurance chômage ou encore la réorganisation des acteurs de la santé au travail. Le Premier ministre l'affirme, les Français sont prêts.
Sur tous ces sujets, les Français ne sont pas dupes. Ils sont légitimement, comme nous-mêmes d'ailleurs, extrêmement attachés au modèle français de sécurité sociale, mais ils savent aussi que le système actuel ne fonctionne pas toujours comme il devrait fonctionner. Nous sommes persuadés que dans ce domaine, ils souhaitent que nous puissions avancer, contrairement à un certain nombre peut-être de gardiens du temple qui prétendent défendre ce modèle en refusant de le moderniser.
Le temps d'un clin d'œil au nouveau ministre de l'Environnement, François de Rugy, qui devra finaliser la programmation pluriannuelle de l'énergie et la loi d'orientation des mobilités. Édouard Philippe s'arrête aussi sur le serpent de mer de l'été, la réforme constitutionnelle dont l'examen avait été abandonné à cause de l'affaire Benalla. Eh bien, le gouvernement ira jusqu'au bout.
Je voudrais confirmer à ceux qui en douteraient qu'elle demeure une priorité du gouvernement. Elle requiert 2 semaines d'examen consécutif à l'Assemblée. Elle sera donc présentée dès que possible, dès que nous aurons dans le calendrier parlementaire 2 semaines d'examen consécutives disponibles, c'est-à-dire au plus tard cet hiver.
Et d'ici là, l'agenda parlementaire s'annonce serré, reprise des débats mercredi prochain avec l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale et l'examen de la loi Pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Plus de 2000 amendements ont déjà été déposés pour ce pavé de plus de 1000 pages.
Le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire affirme qu'il a obtenu des garanties et qu'il sera en mesure de conduire le programme de transformation écologique promis lors des élections de 2017. Nous avons été élus sur un programme de transformation, donc si on disait on fait des transformations dans tous les domaines sauf dans l'écologie, là évidemment ce ne serait pas la peine, en tout cas c'est sans moi, déclare François de Rugy. Aujourd'hui justement est publiée une étude internationale de la Commission mondiale sur l'économie et le climat. Bonsoir Christine Monclar.
Bonsoir Aurélie.
Étude selon laquelle l'économie verte pourrait faire croître la productivité et entraîner des économies massives.
Oui, les bénéfices d'un monde plus vert sont en effet largement sous-estimés, indique ce rapport qui chiffre à 26 000 milliards de dollars le gain pour l'économie mondiale si l'on changeait de focale, si les entreprises, les États envisageaient l'écologie non comme une contrainte, mais comme une plus-value. Alors c'est le troisième rapport de cette commission créée il y a 5 ans à l'initiative de responsables politiques et économiques internationaux et il va toujours dans le même sens, celui d'une économie dite climatique. Autrement dit, d'une écologie rentable avec le vocabulaire adapté pour convaincre les investisseurs publics comme privés. Et la commission de rappeler que des pistes existent pour des villes écologiques, ceinturées de parking avec des centres piétonniers, des transports électriques, qu'une agriculture sans chimie, ce ne sont pas seulement des sols plus sains et des animaux sans hormones, c'est aussi toute une politique de santé publique derrière qui en profite, sachant qu'aujourd'hui 700 000 personnes meurent chaque année prématurément à cause de la pollution ou des pesticides. Le coût de l'inaction est et sera de toute façon bien plus élevé si la Terre se réchauffe au-delà du supportable. 100 milliards de dollars seraient nécessaires pour investir dans cette économie climatique d'ici une dizaine d'années. C'est à peine le quart de ce qu'a coûté l'année 2017 en catastrophe naturelle à travers le monde.
Christine Monclar, c'était il y a un an tout juste. Dans la nuit du 5 au 6 septembre, l'ouragan Irma frappait les petites Antilles et dévastait les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 11 personnes sont mortes à Saint-Martin et le coût total des dommages a été estimé à 3 milliards d'euros. Un an plus tard, la reconstruction de Saint-Barth est bien avancée. Elle prend plus de temps à Saint-Martin où certaines familles vivent encore dans la précarité, dans des maisons sans toit ou sans mur. Plus généralement, les habitants font face à des problèmes d'assurance, d'acheminement des matériaux et la main-d'œuvre manque pour reconstruire. Mathieu Mandoloni a recueilli le témoignage d'Estelle.
Non, rien n'a commencé. En fait, le traitement des dossiers par les assurances, ça a mis des semaines, voire des mois. Il y a eu également le problème de trouver des entreprises pour effectuer les travaux. Il y a une telle masse de chantiers, des centaines et des centaines de chantiers. Donc pour avoir une entreprise, il faut toujours un minimum 4 à 5 semaines pour que l'entreprise vienne chez vous, l'artisan vienne chez vous faire les travaux. Et lui-même aussi a besoin de 4 à 5 semaines pour être approvisionné en matériaux. Faire un devis, ça prend 3 à 4 semaines. Demander toutes les attestations aux entreprises prend aussi des semaines. Après, il y a l'approvisionnement en matériaux qui prend aussi des semaines, voire des mois. Donc, c'est que maintenant que je peux commencer à commander. Et donc, j'aurai mes fenêtres et mes volets roulants d'ici 3 mois. Au bout du compte, la reconstruction ne fait que débuter chez moi, mais aussi sur l'île.
Et la Fondation de France lance aujourd'hui un nouvel appel aux dons pour aider les habitants de Saint-Martin et Saint-Barth. L'an dernier, elle avait pu collecter une somme exceptionnelle, 14,5 millions d'euros. L'argent a surtout servi à réhabiliter des maisons, mais la Fondation a aussi consacré près de 2 millions d'euros à la prise en charge psychologique, puisqu'on estime que 10% de la population a développé un traumatisme post-catastrophe. Or, le seul pédopsychiatre de Saint-Martin a quitté l'île après Irma. Pour Mélanie Hubeau, responsable du programme Santé à la Fondation de France, le travail ne fait que commencer.
Ils se sont vus mourir et ça, tous en témoignent, vraiment de cette conviction que ça y est, c'était leur dernière heure était arrivée. Et ça, c'est souvent un élément déterminant dans la suite et dans la capacité des gens à se reconstruire psychologiquement. Quand il y a eu ce sentiment d'imminence de mort, ça va être plus difficile. Le stress post-traumatique, il va se traduire de différentes manières selon chaque individu, mais globalement, on peut dire qu'il y aura des réminiscences très fortes de la scène de trauma, qui en l'occurrence a été une scène sur plusieurs heures. Il va y avoir des troubles du sommeil extrêmement puissants avec des cauchemars terribles, des terreurs nocturnes, une incapacité à dormir, des états d'anxiété très forts. Moi qui y étais au mois de juillet, au moment où la partie cyclonique redémarrait, dès qu'il y avait un coup de vent, on voyait les gens sursauter, ils avaient les yeux rivés sur leur appli météo en permanence. Et au-delà du stress post-traumatique, moi ce que j'ai observé, c'est un état général des gens qui étaient quand même extrêmement préoccupants au sens où ils sont tous dans une forme de souffrance psychologique à la fois liée à la fatigue, pour certains avoir vu leur situation personnelle, économique se dégrader fortement parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils ont dû réintégrer le foyer d'un ex-conjoint parce qu'eux-mêmes n'avaient plus de logement, etc. Donc il y a une forte augmentation des violences familiales par exemple. Enfin, voilà. Donc il y a quand même une situation sociale généralisée qui est quand même pas très bonne et qui évidemment a un impact sur leur santé mentale. Donc c'est vrai que ce besoin de soutien psychologique, il est extrêmement fort. C'est pour ça que c'est important d'être là sur la durée. Là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il va falloir qu'on aille plus loin. On imagine faire appel à un cabinet de consultants qui permettrait de mettre en place une formation pour l'ensemble des psychologues présents sur l'île, qui leur permettrait de faire de la prise en charge, c'est-à-dire pas uniquement du repérage, mais de pouvoir suivre des personnes très traumatisées, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de dispositif suffisamment opérant encore à ce jour.
Mélanie Hubeau de la Fondation de France au micro de Véronique Rebérotte. Un avion en provenance d'Algérie a dû être immobilisé à son arrivée à Perpignan aujourd'hui. Les pompiers et le SAMU sont intervenus pour prendre en charge un enfant malade et ils suspectent un possible cas de choléra. Deux personnes sont mortes en Algérie depuis l'apparition d'une épidémie de choléra début août. Épidémie maintenant maîtrisée d'après le ministre algérien de la Santé. Suite du procès des agresseurs de Clément Méric, ce jeune antifasciste mort à la suite d'une bagarre avec des jeunes d'extrême droite en 2013. La cour d'assises de Paris s'est d'abord intéressée à la personnalité des accusés, qui encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Puis cette deuxième journée d'audience a permis de commencer à aborder les faits avec les témoignages des enquêteurs. Mais des questions restent en suspens. Le compte-rendu d'audience de Florence Thurm.
Le capitaine de police qui s'avance à la barre est le premier saisi de l'affaire, une bagarre qui a opposé deux groupes extrémistes, résume-t-il, avant de détailler le drame du 5 juin 2013. La vente privée de la marque Fred Perry dans le 9e arrondissement parisien, où des jeunes se rencontrent par hasard, où un vigile tente de calmer le jeu en conseillant aux skinheads de tourner à droite en sortant, car le groupe de Clément Méric est un peu plus loin sur le trottoir à gauche. Je pense qu'ils avaient bien conscience qu'ils allaient les croisés et qu'ils étaient prêts à en découdre, précise le policier. Mais témoignage discordant dans la confusion de l'affrontement, impossible de savoir qui a porté le premier coup, poursuit le témoin. La vidéosurveillance ne sera d'aucune utilité non plus, elle n'a filmé que les jambes des protagonistes. Question sans réponse également, et elle est importante cette question sur la présence ou non d'un point américain que plusieurs témoins affirment avoir vu entre les mains de Samuel Dufour. Samuel Dufour qui se présentera de lui-même au commissariat, insiste son avocat. Quelques heures plus tard, après l'interpellation d'Esteban Morillo, il porte deux grosses bagues au doigt, dont une tachée de sang, la preuve pour la défense qu'il n'a pas pu enfiler ce point américain par-dessus.
Florence Thurm au Palais de Justice de Paris. La rentrée des classes s'est globalement bien passée lundi, mais les syndicats d'enseignants restent préoccupés. Ils critiquent notamment la volonté du ministre de l'Éducation nationale d'évaluer tous les élèves de plusieurs niveaux, une voire deux fois par an. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
Le SGEN CFDT évoque une évaluationnite, rue de Grenelle, se demandant à quoi servent in fine les bulletins scolaires trimestriels. Et la FSU fait elle aussi part de ses réserves.
Et oui, manifestement, l'école de la confiance tamponnée par Jean-Michel Blanquer semble s'éroder chez les enseignants, notamment sur la question de l'évaluation qui, après le CP, se fera désormais cette année en CE1, en 6e et en seconde. Francette Popineau, co-secrétaire générale du SNIPP, principal syndicat du primaire.
Quand on évalue, nous, ce qui est intéressant, c'est de voir les réussites, c'est de voir les progrès qui restent à faire avec l'élève, de discuter avec lui et de mettre aussi tout ce paramètre humain qui est très important. C'est-à-dire, on sait dans quelles conditions l'enfant passe le test. Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il a bien dit tout ce qu'il savait? Or là, c'est une machine qui va traiter ça et qui aura une réponse universelle. Or, dans notre classe, nous n'avons pas un ensemble de petits robots, mais nous avons des individus, une diversité d'élèves, et c'est ça qui fait l'essentiel de notre métier, notre professionnalisme, c'est d'adapter à la diversité de nos élèves les apprentissages mis en œuvre.
Autre source d'inquiétude, la hausse démographique dans le secondaire. Plus 26 000 élèves cette année, c'est en 5e que les classes seront le plus chargées avec au moins 30 élèves par classe. Une augmentation liée aussi à la baisse des places au concours de professeurs dans le secondaire, moins 20% au printemps dernier, à laquelle il faut ajouter aussi une crise des vocations comme en maths et en français. Frédéric Ollet, la secrétaire générale du SNES.
Nous, on continue à dire qu'il faut à la fois donner une visibilité aux étudiants, c'est-à-dire avoir un plan de programmation du nombre de postes au concours, mettre en place des pré-recrutements, développer les aides aux étudiants, revoir la formation des enseignants et puis la question des rémunérations.
des rémunérations basses, puisque la moyenne dans les pays de l'OCDE est de 3 700 € par mois pour un enseignant, alors qu'en France, la moyenne est de 2 700 € pour un enseignant.
Hakim Kasmi, et puis c'est la fin ce soir de la phase principale de Parcoursup. Pour les jeunes sans proposition ou toujours sur liste d'attente pour aller dans l'enseignement supérieur, il y aura encore la procédure complémentaire et les commissions rectorales. Demain jeudi, il faudra faire avec un ciel gris et des averses. Du nord de la Seine au Pays de la Loire et au Poitou, des éclaircies apparaîtront l'après-midi. A l'inverse, en Bretagne et Normandie, c'est le matin qu'il fera beau. Les températures minimales iront de 12 à 20 degrés, les maximales de 19 à 27. Il fera jusqu'à 29 au bord de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.